Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gémozo. Nous sommes Agathe et Léonie.
Bonjour.
Du groupe Livrado de la médiathèque intercommunale Le Cercle.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'immense privilège d'accueillir au téléphone un auteur plutôt connu pour ses romans pleins de suspense, de mystère et de retournement de situation. Mais aussi pour Néo, une saga dystopique pensée pour les ados. Nous parlons bien entendu de Michel Bussy.
Avec Néo, Michel Bussy nous fait découvrir un mystérieux Paris post-apocalyptique dans lequel les adultes sont morts et où deux bandes d'enfants se partagent la ville. Pour eux, il existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme, le tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement ?
Il est maintenant temps d'accueillir notre invité. Bonjour Michel Bussy et bienvenue sur
Bonjour.
Notre antenne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio Gémozo. Nous avons plein de questions à vous poser. Pour commencer, comment allez-vous et où vous trouvez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, je vais bien, je suis en Normandie, là où j'habite, et en fait, on a la chance parce qu'il ne fait pas trop chaud, on n'a pas la canicule, voilà, donc on est bien.
Ah, chanceux.
Nous allons donc passer aux quelques questions que nous avons à vous poser. Aujourd'hui, vous êtes un auteur très connu, mais avant ça, vous êtes toujours prof de géographie. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « Ok, peut-être que je peux vraiment devenir écrivain ?»
Bah, ça fait à peu près 10 ans moi, que j'ai arrêté d'être professeur pour ne devenir que écrivain. Mais oui, à un moment donné, quand mes livres ont commencé à se vendre beaucoup, c'est là que je me suis dit que je pourrais devenir écrivain à temps plein. Et en particulier, pouvoir écrire des choses que je n'avais pas le temps d'écrire auparavant, comme la série Néo, puisque c'était une série en 4 tomes qui était très longue. Et tant que, par exemple, j'avais un métier, c'était très difficile de me lancer dans un tel travail.
Ah oui, effectivement. Et vous vous souvenez du moment où vous avez écrit votre première histoire ?
Oui, je vais être tout petit, hein, je pense. J'avais peut-être 9 ans, quelque chose comme ça. Et c'était des rédactions en fait, que j'écrivais pour l'école. Et j'ai des souvenirs de ça. Donc je dirais que j'avais 8-9 ans. Ouais.
Wow. C'est très jeune.
Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, les gens qui aiment bien écrire, souvent, c'est à cet âge-là qu'on commence à inventer des histoires.
Oui, effectivement, oui.
Dans Néo, les adultes sont tous morts et seuls les enfants restent. Et c'est franchement une idée qu'on trouve géniale, mais aussi un peu inquiétante. Comment est-ce que cette histoire vous est venue ?
En fait, c'est quand même quelque chose qui est assez classique dans la littérature jeunesse, d'essayer de trouver des façons dont on pourrait avoir des aventures, une histoire où les enfants se retrouvent seuls. Alors, la plus connue peut-être, c'est Sa Majesté des Mouches. Il y a une série en ce moment qui a été tirée de ce classique, où c'est des enfants qui vont échouer sur une île déserte et qui, pendant un certain nombre de temps, vont devoir se débrouiller tout seuls avant que les adultes viennent les secourir. Il y a la série BD Seul aussi. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses. Et moi, j'ai eu cette idée de me dire... plutôt que les enfants soient seulement pendant quelques jours tout seuls sur une île, ça serait le monde entier qu'ils devraient reconstruire. Et donc il n'y aurait plus d'adultes. Et donc, c'est venu comme ça avec cette idée du nuage qui tuerait tous les adultes. Et il n'y a que les enfants qui sont dans le ventre de leur mère qui auraient été protégés. Et voilà. Et donc, c'était évidemment une façon de faire un monde, on va dire, parfois post-apocalyptique, une dystopie, mais positive, hein, puisque les enfants, ils peuvent très bien la reconstruire de façon positive, cette terre.
On a lu que vous étiez fan de Harry Potter, de Tolkien et d'Agatha Christie. Est-ce qu'il y a un livre lu ado qui vous a vraiment donné envie de raconter des histoires ?
Oui, beaucoup, mais je dirais quand même peut-être ado, j'ai plutôt lu Tolkien et notamment Bilbo le Hobbit. C'est peut-être ce livre-là qui a déclenché des choses, puisque Harry Potter, j'étais déjà plus vieux, j'étais déjà adulte quand Harry Potter est sorti. Donc je dirais que ouais, le livre qui m'a le plus marqué, c'est Bilbo le Hobbit, et puis qui est le début en fait du Seigneur des Anneaux ensuite. Voilà, donc je dirais que c'est ce livre-là.
Dans Néo, Paris devient presque une terre sauvage, c'est un immense terrain d'exploration où les enfants évoluent entre le Louvre, entre la Tour Eiffel, les stations de métro. Est-ce que, au fond de vous, vous avez écrit le livre que vous auriez peut-être rêvé de lire lorsque vous étiez adolescent ?
Oui, je crois. En tout cas, je l'ai écrit comme ça, en me disant que j'aurais beaucoup aimé lire un livre comme ça, où il y a à la fois des aventures, évidemment, de l'amour, de l'histoire, beaucoup de secrets, de mystères. Oui, je crois. En tout cas, moi, quand je l'écrivais, je me disais... je l'écrivais un peu pour l'ado que j'étais à l'époque et qui aurait adoré écrire cette histoire-là. En tout cas, j'espère que voilà, qu'il y avait ce côté Écoutez, alors, je l'écrivais aussi pour les adultes, hein, parce que moi, en tant qu'adulte, j'ai lu les Harry Potter, où j'aime bien lire de la littérature jeunesse, mais en tout cas, j'essayais de cibler. D'ailleurs, souvent, je me suis aperçu que c'était des jeunes qui lisaient Néo, enfin, généralement à partir de 9-10 ans, alors qu'au départ, je pensais que ça serait plutôt pour des 12 ans et plus. Et en fait, non, souvent, les lecteurs vont attaquer ce roman ouais, dès 9 ans, et souvent à 11 ans ou 12 ans, ils ont fini les 4 tomes. Donc finalement, je l'ai plutôt adressé à des plus âgés, et il est souvent lu par des plus jeunes que je ne croyais. Voilà.
Et justement, nous étant lectrices de cette histoire, au fil des romans, on voit la société politique des enfants évoluer et reproduire certains schémas vus déjà dans l'histoire. Est-ce venu d'une passion pour l'histoire ou de l'envie de montrer certains régimes politiques à vos lecteurs?
Oui, ben c'était l'idée de départ, ça. C'était l'idée de dire que quand les enfants vont reconstruire ce monde, on va repasser par les grandes étapes de l'histoire de l'humanité. Donc le premier tome, c'est plutôt des clans qui vont lutter contre un phénomène naturel et qui vont devoir s'unir pour lutter contre, voilà, contre une sécheresse, enfin une famine. Donc on pourrait dire qu'on est un peu à la préhistoire. Après, il va y avoir le fait que la société s'organise un peu en royaume autour d'un chef. Et donc on pourrait dire qu'on est plutôt au Moyen Âge, etc. Après, il y aura la montée des dictatures, clairement, avec une privation des libertés, début des religions très fortes, enfin, utilisées un peu pour opprimer le peuple. Donc on pourrait dire qu'on est voilà, la Renaissance et au début des temps modernes. Et puis après, bah, on a une grande guerre qui va terminer le récit. Donc on pourrait dire que là, on est dans la période moderne, après une guerre mondiale à leur échelle. Donc il y avait quand même l'idée de retracer un peu l'histoire, et en particulier, évidemment, comment, après une période de paix, bah, la dictature va s'installer. Voilà, comment finalement le peuple finit par accepter de se priver d'un certain nombre de libertés à partir du moment où il a un certain confort. Donc il a à manger, il a de quoi habiter, donc il vit mieux. Et donc finalement, les libertés, il accepte de les perdre, sauf évidemment une poignée de personnes qui, elles, vont résister parce que vont comprendre qu'en fait, bah, certaines personnes sont en train d'opprimer les autres. Et puis il y a aussi cette idée, évidemment, qui est très présente dans Néo, de l'esclavage. En tout cas, à partir du moment où mes enfants, notamment ceux du château, vont découvrir qu'il y a d'autres enfants, notamment bon, les Prémas et puis d'autres tribus dans le tome 3 et 4, eh bien, il y a l'idée que bah, c'est un choc des civilisations et qu'on peut. Bah, qu'une civilisation peut en dominer une autre, et même considérer que d'autres enfants sont pas tout à fait humains ou sont pas tout à fait ont pas tout à fait les mêmes droits. Évidemment, ça rappelle, bah, là encore, l'histoire du monde avec les grandes découvertes, puis la colonisation, puis l'esclavage, puis effectivement les grandes questions qui ont traversé l'histoire de l'humanité, à savoir avant effectivement qu'on reconnaisse qu'il n'y ait pas de différence entre les races et que chaque être humain est égal. Mais il y a fallu voilà, évidemment beaucoup de siècles avant qu'on arrive à ce constat. Et donc là, bah, mes enfants sont confrontés au même constat, c'est-à-dire est-ce que si on est plus un enfant plus instruit, peut-être potentiellement plus intelligent, avec plus de technologie, avec le pouvoir, l'argent, etc., bah, est-ce que ça nous donne une supériorité sur d'autres peuples qui vivent autrement?
Oui, effectivement, on a vu ça dans toute cette histoire et c'est la question qu'on se posait depuis longtemps.
Merci beaucoup. On va maintenant vous poser quelques questions par rapport à votre écriture. Est-ce que vous trouvez qu'il est plus difficile d'écrire pour des adolescents que pour un public adulte?
Non, je dirais que c'est la même chose. En tout cas, moi, je ne me suis pas posé la question en termes de difficulté. J'ai écrit exactement comme j'aurais raconté l'histoire à des ados. Et donc voilà, donc j'ai écrit avec le même style. Alors dans mes romans adultes, il y a déjà souvent des ados qui s'expriment. Et vraiment, je ne me suis pas posé la question. Ça s'est fait assez spontanément. Exactement, voilà, comme si je racontais une histoire à un public que je sais un peu plus jeune. Sans doute que d'écrire pour ados, je me suis un peu débarrassé peut-être d'un certain nombre de tics d'écriture qui voudraient qu'on écrive pour les adultes. De temps en temps, il faut montrer qu'on écrit bien, qu'on fasse de belles descriptions, qu'on trouve de belles métaphores poétiques. Et ça, effectivement, pour les ados, je m'en suis débarrassé parce que je sentais que c'était pas nécessaire. Et même qu'au contraire, c'est pas du tout ce qui était attendu dans la littérature jeunesse, et qu'il fallait au contraire que je me concentre sur les personnages et sur l'histoire.
Donc beaucoup plus libre, en tout cas au niveau de l'écriture.
Oui, exactement, beaucoup plus libre, oui.
Et on sait que vous aimez surprendre, pour ne pas dire, hein, piéger vos lecteurs. Quand vous écrivez, est-ce que vous savez dès le départ exactement où vous allez, ou est-ce que l'histoire vous emporte un petit peu avec vous?
Bah là, en fait, pour Néo, l'histoire m'a un peu emporté, puisque il y avait 4 tomes et que je savais évidemment comment se terminerait le dernier tome, mais il y avait quand même beaucoup de choses, notamment les personnages, je ne savais pas comment ils allaient évoluer tous. Et donc, bah oui, il a fallu que je me laisse porter. Par exemple, bah, le personnage de Luponero, je ne savais pas comment il allait évoluer, et ça, c'est quelque chose que j'ai inventé au fur et à mesure de l'histoire pour savoir ce qu'il allait devenir. Alors, je ne dis pas pour ceux qui n'ont pas lu la série, pour pas spoiler, mais voilà, ça c'est quelque chose qui a évolué. Je pense aussi aux 2 jumeaux qui vont avoir un rôle très important dans le récit, qui sont effectivement les enfants de Marie-Lune. Et bien au départ, je ne savais pas exactement qui ils étaient, ou en tout cas, je les ai changés en cours de route pour surprendre davantage le lecteur. Et puis, je dirais même chose sur les couples qui se forment. Au départ, je n'avais pas inventé les personnages en couple. Et puis, c'est au fil du roman que je me suis dit, par exemple, bah, Sabi serait évidemment formidable si elle formait un couple avec Akane ou d'autres comme Valère et puis Constel. Enfin voilà, donc ça, c'est des choses qui se sont... Vanille et puis Jeanne d'Arc. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont organisées au fur et à mesure que mes héros évoluaient. Eh bien, voilà, je leur inventais un petit peu un destin et ils prenaient vraiment tous de l'importance. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le dernier tome, chaque personnage un peu important va avoir son petit quart d'heure de gloire et va avoir un rôle pour finalement faire triompher le camp de la liberté. Et donc, je tenais à ce que chaque personnage, finalement, ait son heure de gloire.
Et justement, en parlant de vos personnages, sont-ils inspirés de personnes historiquement réelles? Et si oui, est-ce que leurs vies ont influencé leur rôle dans votre roman?
Alors, non, pas vraiment. On peut pas dire qu'ils soient vraiment inspirés de personnages réels. Après, peut-être Augénor, qui évidemment, Augénor, bah, évidemment, lui-même se prend pour Napoléon, ou se prend même à la fin pour Gengis Khan, et puis sa descendance, énorme. Donc, c'est plus, effectivement, dans cette idée de dictature, et même après, on est au-delà de la dictature, puisque sa société parfaite, on est même sur une société où il y a un seul géniteur. Donc, oui, pour Augénor. Après, les références historiques, bah, on les retrouve quand même. Par exemple, dans le tome 2, quand il y a tout le débat sur la controverse de l'orangerie, elle reprend clairement un fait historique qui est la controverse de Valladolid, qui était ce moment où les explorateurs, les conquistadors ont discuté de est-ce que les indigènes, notamment en Amérique, avaient une âme ou pas, et donc est-ce qu'il fallait les traiter comme des êtres humains. Et là, effectivement, cette controverse où Valère, Sabi s'oppose notamment à Isalis et d'autres enfants, bah, on reprend ces arguments. Est-ce que les Prémas sont des êtres humains comme d'autres? Donc oui, il y a un certain nombre de petites références comme ça. Évidemment, l'environnement aussi, c'est une référence à... Évidemment, aux grandes questions environnementales qui se sont posées à certains moments, mais l'Égypte aussi, évidemment, qui est présente, l'Égypte ancienne à travers le Louvre et ses archives. Mais il n'y a pas de personnage en soi, c'est plus l'idée vraiment de jouer sur des lieux historiques. Hein. Bon, évidemment, le château de Vincennes, le Père Eiffel, enfin, il y a beaucoup de lieux historiques qui sont revisités, l'Observatoire de Paris aussi, les catacombes, enfin voilà. Mais sans forcément qu'il y ait un personnage en soi. Après, on pourrait dire que, évidemment, mes héros, notamment dans le tome 3, bah, reviennent, sont des résistants. Donc là, on pourrait y voir toutes les formes de résistants qui ont, à un moment donné, résisté à un régime autoritaire. Et donc, voilà, ils se cachent et ils tentent d'organiser, voilà, une résistance à quelques-uns dans un premier temps.
C'est très intéressant. Et alors, sans tout nous dévoiler, est-ce qu'il y a encore un projet que vous rêvez de réaliser un jour?
Bah oui, moi, par exemple, j'adorerais que Néo soit adapté en série, parce que c'est vrai que quand j'ai écrit Néo sur Paris, bah, il y avait cette idée qu'il n'y a pas forcément de grande saga jeunesse qui se déroule en France. Et donc, il y en a beaucoup qui se déroulent aux États-Unis, beaucoup évidemment qui se déroulent avec Harry Potter en Angleterre, pas vraiment en France. Et je trouvais que bah, c'était chouette de mettre en valeur la Tour Eiffel, le Louvre, tout le décor de Paris. Et donc, oui, j'adorerais que bah, ça puisse être adapté en série. Alors, il y a eu des projets, mais ça coûte très cher. Mais voilà, donc si ça pouvait se faire bah voilà, en série télévisée ou pourquoi pas en série d'animation, je serais le premier ravi. Mais bon, voilà, on est encore en train de travailler dessus. S'il y a un producteur qui nous écoute, voilà, qui se lance dans le projet.
Et donc, si jamais ça se concrétise, vous serez à cheval sur le respect des personnages et ce genre de choses?
Ah ben j'espère, oui. Alors dans le projet qu'on avait, ils avaient quand même voulu vieillir un peu les personnages, de manière à ce que ça soit voilà, un petit peu plus pour un public un peu plus âgé. Ils avaient voulu mettre un peu plus aussi de place au moment avant le nuage, donc aux adultes, pour qu'on voit un peu les adultes avant que le nuage ne passe. Voilà, donc ils voulaient faire quelques petits ajustements, mais pour le reste, ils gardaient les personnages, oui.
Alors, on vous propose un défi. Il faut répondre sans trop réfléchir. Est-ce que vous êtes prêt?
Allez, je suis prêt.
Préférez-vous écrire un polar ou une dystopie?
Ah, non, mais c'est pas juste ça. Un polar dystopique.
Ah, vous trichez. Est-ce que vous préférez une cabane dans la forêt ou le Louvre?
Ah, c'est trop dur ça. On va dire une cabane dans la forêt.
Préférez-vous lire ou écrire?
Écrire quand même.
Augénor ou Mordélia?
Mordélia. J'aime beaucoup
Enfin.
Mordélia. J'aime beaucoup ce personnage de Mordélia parce qu'elle est à la fois affreuse, elle est à la fois terrible, et à la fois c'est une femme libre et on comprend que c'est, même si beaucoup de malheurs arrivent à cause d'elle, je crois qu'on est obligé de croire. Voilà, c'est une femme libre, c'est une femme qui s'est nourrie de haine et je pense qu'on a beaucoup d'affection pour Mordélia. En tout cas, moi j'en ai beaucoup.
Nous aussi. Préférez-vous Marie-Lune ou Pierre Sol?
Pas Pierre Sol quand même, parce qu'il a le beau rôle, Pierre Sol, quand même. Et j'aime beaucoup les passages où Pierre Sol, il tente de sauver le maximum d'enfants dans la rue. J'aime bien ce passage du tome 2.
On vous comprend aussi. Merci beaucoup, Michel Bussy, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Bah, merci pour ces questions et merci de voilà d'avoir voté pour Néo et d'avoir développé voilà parce que je suis très fier quand j'ai des ados, des enfants qui viennent en signature me dire qu'ils ont lu les 4 tomes et qu'ils ont aimé. Et puis bah voilà, c'est formidable de vivre des belles émotions avec mes personnages. Merci.
C'est vrai qu'on ne lira plus vos livres tout à fait de la même façon maintenant, et on a déjà hâte de découvrir dans quelle nouvelle aventure ou quel nouveau piège, hein, vous allez embarquer vos lecteurs.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir écoutés sur Radio Gémozo. À très bientôt pour une nouvelle émission.